Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Mais ceux qui sont droits se mettent d'accord entre eux.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
I don't know this time, I lost my way around here. So our seasons changed, is love a souvenir? The way the cards would fall, I don't understand what to make of us. What to make of us? When you go, you don't. And when you stay, the sky's away from here. Would you come home? Would you come home? And when you go, you don't. And when you're still, you're in our memories past, we feel the push and pull. As the years move on, the change is beautiful. And love is bittersweet, and you and I, we decide what to make of us. What to make of us? When you go, you don't. And when you stay, the sky's away from here. Would you come home? Would you come home? And when you go, you don't. And when you're still, you're restless in.
Si je les emmêle, si je dérange, fait que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
C'était James avec Vianney sur Phare FM 88, la radio autrement qui vous accompagne. Je vous souhaite un beau réveil, une excellente journée ce mardi 17 juin. Je suis avec vous jusqu'à 5h. Votre programme, tout à l'heure, Retrouver Pain de Vie avec Samuel Peter Schmidt. Le thème sera Comment vivre heureux. Et puis, les langages de l'amour un peu plus tard et de la musique tout de suite avec Stars Go Dim, Discover God. À tout à l'heure.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
From a preacher back in Tulsa, quoted Genesis to Revelation, probably could have schooled ya. Yeah, wore the No Fit t-shirts, oh yeah, classic overachiever. And I used to be the poster child for Sunday morning hallelujah. Bigger than I thought it could, yeah. Ooh, yeah.
maintenant votre message Pain de vie avec le pasteur Samuel Peterschmidt.
Nous voulons absolument tous vivre heureux. Alors, je sais que le bonheur et je sais qu'être heureux, eh bien, demande différents ingrédients et est bien plus complexe que résumer simplement à deux points. Cependant, je voudrais quand même vous donner deux indications essentielles que nous donne la parole de Dieu qui vous permettent de vivre réellement une vie heureuse. Que dit Jésus au sujet de ses brebis ? Il dira : je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but du Seigneur, c'est que tu aies la vie, mais également que tu sois, eh bien, dans l'abondance. Lorsque David lui-même parlera de l'Éternel en tant que berger, il pourra dire : je ne manque de rien. Une vie satisfaite, une vie satisfaisante. Est-ce que c'est pas beau lorsque vous voyez des brebis qui paissent tranquillement dans la prairie, qui sont couchées ensemble, qui manifestement sont en sécurité parce que le berger est là? Moi, je trouve ça beau lorsque je vois ces images-là. Je m'arrête, je regarde. C'est paisible. Mes amis, nous aspirons, nous le désirons, c'est sûr, c'est certain. Je sais que je peux pas me tromper. Et pourtant, je me rends compte que tant de croyants, tant de chrétiens connaissent Dieu, connaissent la source par excellence du bonheur, connaissent celui qui rend heureux et vivent insatisfaits. L'apôtre Paul nous donne deux indications. Et c'est sur ces deux indications que je voudrais m'arrêter. Dans 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet, dira l'apôtre Paul, une grande source de gain que la piété avec le contentement. En d'autres termes, c'est une grande richesse que la piété et le contentement. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux termes. Tout d'abord, et c'est mon premier point, la piété. C'est un mot que nous n'employons pas souvent. Et en fait, il a très souvent une connotation pas forcément objective, mais plutôt d'austérité. Alors, qu'est-ce que la piété ? La piété se traduit par la vénération, c'est-à-dire le respect voué aux choses sacrées. Elle est faite d'affection et de respect envers Dieu. On parle d'ailleurs même de piété filiale. Quand il s'agit de parents, c'est-à-dire d'un attachement, d'une tendresse et de respect des enfants pour leurs parents. Le mot piété renferme cet élan du cœur, ce don de soi. Ce n'est pas une religion mécanique dans laquelle il faut prier, il faut lire la Bible. Lorsqu'un homme, une femme est pieux ou pieuse, il a une relation qui repose sur la tendresse qu'il a pour Dieu. Il est heureux d'être avec Dieu. Il se réjouit d'être avec Dieu. Je vous le disais, piété, eh bien, est souvent confondu avec austérité, légalisme. Être pieux, ce n'est pas être austère. Pour certains, être spirituel, c'est plus t'as un air triste, plus t'es spirituel. Ils te tirent des têtes, faut presque faire attention que tu leur marches pas dessus quand tu les croises. On n'a pas le droit de rire avec eux. Jeudi, nous avions une pastorale à 1h30. On était à 7 pasteurs dans la voiture. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pourtant, ils sont tous pieux, j'en suis sûr. Mais on s'est pas ennuyé. On a ri. L'austérité te conduit à laisser croire que tu n'as plus le droit de te réjouir. Dès que tu te réjouis, peut-être que tu es coupable de quelque chose. Certains te disent, tu peux plus écouter de musique, tu peux plus ceci, tu peux plus cela. En fait, à la fin, tu te dis, mais tu peux plus vivre. Mon exemple, bien sûr, c'est le Seigneur dans la parole, mais mon exemple vivant, c'est mon Père. Mais quand vous êtes avec lui, vous avez envie de vivre. Cet homme-là, il est pieux, mais il est heureux de vivre. Il se réjouit de la vie. Il profite de la vie. Non, on a donné une image de la piété qui est totalement opposée à ce que Dieu veut. La piété te mène dans une relation dans laquelle tu as de la joie à être dans la présence de Dieu. T'es content d'être chrétien, mais t'es content de vivre aussi. T'es content d'écouter de la musique, t'es content de te réjouir. Certains m'ont dit, oui, mais frère, le message de l'évangile est tellement grave. Oui, il est grave. Oui, si un homme ne reçoit pas Christ, il est perdu. Oui, le message est grave. Mais c'est pas en étant triste et austère que tu amènes celui qui ne le connaît pas à s'approcher de Jésus. Il faut que celui qui ne connaisse pas Jésus voit que toi, tu as quelque chose de plus que lui. Dans cette relation vivante, l'apôtre Paul nous invite à la piété. Il est dit dans 1 Timothée, « Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, c'est-à-dire la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Dans Hébreux 12, il nous est dit que nous devons rendre un culte qui lui est agréable. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété, c'est-à-dire respect, tendresse, élan du cœur. Il y a de la tendresse dans la relation avec Dieu. On a le droit d'éprouver de l'émotion à l'égard du Seigneur. On a le droit de se réjouir en lui. Frères et sœurs, la piété est remplie d'émotions, est remplie d'affection, est remplie de sentiments. Ce n'est pas une austérité froide. T'as certains chrétiens, tu te demandes s'ils savent encore ce que c'est. Simplement montrer de l'affection. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul nous rappelle que les hommes pieux sont des hommes qui sont bénis, qui sont sous la protection de Dieu. Dans le psaume 32, il nous est dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Parce que Dieu se réjouit avec ce genre d'homme. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, je disais « Mais tu sais, quand je rentre dans ma chambre pour prier, mais passer trois quarts d'heure, une heure dans la présence de Dieu, c'est pas difficile. Je me réjouis, je vais rencontrer celui que je sers de tout mon cœur. Et là, je lui parle, et là, je prie, je ris ou je pleure, ça dépend. Ce n'est pas une obligation, c'est pas maintenant, maintenant il faut que j'aille prier. Non, c'est une joie d'être en relation avec Dieu, c'est une joie de lire sa parole. Mon frère, ma sœur, une relation simple, une relation vraie, une relation profonde, non pas faite de « t'as pas le droit, il faut » et tout ce qui t'as pas le droit, tu vas pas le faire parce que tu aimes le Seigneur. Tu es libéré. Et c'est ça ce qui m'a toujours encouragé chez le papa Jean. C'est un homme libre, un homme heureux de vivre. S'il voit quelque chose qui le fait rire, il va rire de bon cœur. Il va pas se sentir coupable parce qu'il s'est réjoui. Comment se caractérisent les hommes pieux? Dans 1 Jean 3, verset 9, eh bien, il se caractérise par le refus du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'homme, la femme qui vit pieusement, eh bien, n'a pas envie de pécher. Il aime le Seigneur. Son amour pour le Seigneur est tel que le péché n'a plus d'emprise sur lui. Mais plus tu vis ta relation avec Dieu comme une obligation, des règles mécaniques, une observation de la loi sévère et stricte, plus le péché a d'emprise sur toi. Plus tu es heureux, plus tu vis dans une relation libre avec Dieu, dans la joie et la paix, plus tu as la capacité de résister. L'homme pieux, la femme pieuse aime les commandements de Dieu. Dans Jean 14, il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il garde ses commandements. Quand tu as une relation qui est basée sur l'amour, alors tu aimes respecter celui que tu aimes. C'est pas difficile. Vous savez, on raconte l'histoire suivante. C'était une femme qui était mariée. Et puis, le mari était très sévère, très strict. Et c'était que des obligations. Et tu fais ceci, et tu fais cela. Et elle a été jusqu'à lui faire une liste de 40 points. Elle s'efforçait de respecter la liste. Mais cette dureté l'avait privée d'amour. Alors, elle faisait des efforts, mais elle n'y arrivait jamais. Et un jour, malheureusement, le mari trépassa. Et puis, quelque temps après, elle rencontre quelqu'un d'autre et elle en tombe profondément amoureuse. Elle l'aime de tout son cœur. Elle a une communion avec lui. Ils se marient et puis, après des années de mariage, elle ouvre un tiroir et elle retombe sur les 40 points que son premier mari avait fixés. Et là, elle les relit, elle se met à pleurer. Parce que soudain, elle réalise qu'avec le second qu'elle aimait tellement facilement, elle venait de respecter tous les points sans jamais qu'il les exige. C'est ça ta relation avec Dieu. Chaque point, elle l'avait respecté, sans qu'il lui soit exigé, parce que l'amour était le moteur. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est pas difficile de la lire, la Bible. Au contraire, ça t'encourage, ça te fait du bien, elle te nourrit, elle t'exhorte, elle te reprend, elle te parle. Mes amis, j'aimerais vous dire Waouh, c'est beau d'être chrétien. C'est beau de connaître Dieu. C'est beau d'être pieux. Il se caractérise par son amour du prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 1 Jean 4, 7, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il aime les autres. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu habite en lui. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. La piété se manifeste par l'amour. La piété, c'est une question de relation avec Dieu, mais automatiquement avec les autres. Tu te réjouis. Je le prends pour exemple parce que je le fréquente depuis des années. Mais le papa Jean, je sais qu'il aime les gens. Quand il les voit, oh. Et je t'assure que c'est vrai. Moi, j'ai eu un homme qui est venu me voir. Il me dit, vous savez, la première fois que je suis venu dans votre église, j'étais venu, je me disais, ça, c'est une secte. Je sortais des toilettes et j'ai rencontré un monsieur avec des cheveux blancs. Il m'a vu et il m'a dit, bonjour frère, alléluia. Le type, il a fondu. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un me manifestait vraiment de l'affection et de l'amour. Aimer les autres, mais simplement, sans chichi, être vrai, juste être toi. Il y a dans l'Écriture des exemples d'hommes pieux. Corneille, par exemple. Acte 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Regardez, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire des dons, il soutenait les pauvres. Priait Dieu continuellement. Priez constamment, c'est où que tu sois, tu loues le Seigneur, tu te réjouis, tu vois quelque chose de beau, alléluia. Mais si nous apprenons à bénir, à aimer, en nous changeant, nous avions déjà affaire à des personnes qui nous ont fait des coups tordus. Mon père me dit, et moi je disais, maintenant, ça suffit. Il arrivait, yo Sami, si tu les aimes, ils changent. Et j'ai dû constater qu'il a raison. Mais regardez ce qui est intéressant avec Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. La piété de Corneille va se manifester par la qualité de sa vie. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez l'air pieux que vous l'êtes. Votre piété va se manifester par votre qualité de vie journalière. Un homme pieux est pieux, mais cela se manifeste chaque jour dans son attitude, son comportement, dans son amour pour le Seigneur, dans sa joie de le rencontrer, dans sa joie de lire sa parole, dans sa joie de respecter ses commandements, dans sa joie d'aimer son prochain, dans sa joie d'aider son prochain. Ces hommes-là, ils n'ont pas besoin de faire de grands discours, mais Dieu se révèle à eux. La Bible ne nous dit pas que Corneille, à un seul moment, ait rencontré un jour Jésus, non. Elle ne nous dit pas non plus qu'il ait rencontré un des apôtres. Il connaissait en fait pas encore les apôtres. Il ne connaissait pas encore ces choses. Mais il avait déjà un cœur qui aimait Dieu. Des hommes et des femmes comme ça, avant même qu'ils ne le rencontrent, ils se manifestent à eux. Ils les cherchent. Et là, ils se révèlent. Et lui parlent. Et lui envoient un serviteur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu intervenir. Certains me disent, tu sais frère, je prie pour que je voie des anges. Ben, sois pieux. Vis dans la piété. Et un jour, Dieu peut-être le permettra. Ce qui est important, c'est que tu vives dans cette profonde relation. Un autre homme pieux duquel il est parlé, c'est Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, Luc 2, 25. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apporter le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Béni Dieu, dit maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Là se trouvent des hommes pieux et des femmes pieuses, se trouve le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu conduit les hommes et les femmes qui vivent dans la piété. Je vais vous le dire, il n'y a rien de plus beau que de devenir un homme et une femme pieux et pieuse. Aspirez-y. L'apôtre Paul vous y invite, il dit, mais cherchez-le. Ne vous contentez pas d'avoir une religion. Un homme qui vit heureux avec Dieu. Un homme qui voit Dieu le diriger. Une femme qui voit Dieu le diriger. Frères et sœurs, ce n'est pas du légalisme. C'est un échange vivant avec le Seigneur. C'est un privilège. Là, tu le vis comme un privilège. Alors, j'aimerais peut-être terminer ce point-là en disant attention à l'apparence de la piété. Parce qu'il y a les hommes et les femmes pieux et pieuses, et puis il y a l'apparence de la piété. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la piété. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que et l'Écriture nous dit que l'apostasie viendra. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apostasie? Simplement, c'est l'action de s'éloigner, désertion, défection. Et ce mot, eh bien, est employé plusieurs fois lorsqu'il y a abandon de la foi. Mais il est question de défection par rapport à la foi, de désertion par la foi. On donne l'apparence de la piété. On fait très religieux, on nous regarde, on fait très spirituel. Aujourd'hui, on ne parle plus de piété, on dit « il est spirituel ». Mais ça ressemble à la spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité. Ça ressemble à de la piété, mais ce n'est plus de la piété. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. J'écourte la liste. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça ce qui fait la force de la piété. Tout le reste, c'est du cinéma. Et mes amis, je crois que même dans cette église, il y a des gens qui font du cinéma. Ils n'ont plus que l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. À quoi puis-je le dire? Écoutez ce que Paul dit à Tite. Il dira au chapitre 1, verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils le renient. Leurs œuvres démontrent ce qu'ils sont en réalité. » Quand je vois des chrétiens qui n'aiment pas leur prochain, manifestement, ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais ceci, jamais cela, n'ouvrent jamais leur maison, ne reçoivent jamais... Quand je vois des chrétiens qui ne prient pas, ils me disent « moi, j'ai pas besoin de prier, je me sens bien comme ça ». Quand je vois des croyants qui n'ont pas besoin de la parole de Dieu, je me dis « ils n'ont plus que l'apparence de la piété ». Oh, ils vont venir le dimanche matin, ils vont lever les bras. C'est l'apparence, c'est du religieux. Mais il n'y a plus le fond, il n'y a pas la relation avec Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien de tout ça. À l'intérieur même de leur famille, ils peuvent être terribles. Quand vous les regardez vivre et vous lisez la Bible, vous dites « c'est pas la même chose ». Il y a un décalage. Sa vie me dit autre chose que ce que dit la Bible. Au contraire, ces gens-là marchent même en ennemis de la croix. C'est-à-dire qu'ils se prétendent chrétiens, mais ils éloignent des hommes et des femmes de la croix. Pourquoi? Parce que quand on les voit vivre, on se dit « mais si ça c'est des chrétiens, moi je ne veux jamais le devenir ». Et mes amis, c'est dans tous les milieux que des hommes et des femmes tout d'un coup peuvent perdre cette relation avec Dieu et n'avoir plus que l'apparence. La meilleure chose, c'est observons-nous, regardons. Regardons nos œuvres et nous saurons où nous en sommes. Vous savez, l'homme qui veut vivre vraiment pieusement, il sait que tôt ou tard, et c'est ce que Paul dit à Timothée, tôt ou tard, il sera persécuté. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et à un moment donné, quand tu as une vraie relation avec Dieu, tous ceux qui ne l'ont pas, eh bien, tu les irrites, tu les agaces. Je ne te parle même pas des non-croyants, parce que tu deviens pour eux un signe. Parce que pour eux, à quelque part, tu interpelles leur conscience. Tu les gênes. Un homme réellement pieux, une femme réellement pieuse, mais mal à l'aise ceux qui ont l'apparence de la piété et qui en ont renié la force. Il est rien que pour la société un jugement, parce qu'il a des valeurs que la société n'a pas. Des valeurs qu'il vit, des valeurs qu'il transmet, des valeurs qu'il dit. L'autre jour, j'écoutais la chronique d'un journaliste. Il commentait les 30 ans de la loi sur l'avortement. Et voilà ce qu'il dit, c'est M. Zemmour, sur RTL. Il dit 30 ans déjà que, officiellement, l'on peut avorter. 30 ans, c'est en France 7 millions d'enfants qui ne sont pas. Et il disait, si ces 7 millions d'enfants étaient là, eh bien la richesse du pays aurait augmenté, l'industrie aurait dû fonctionner bien plus encore, parce qu'il faut les habiller, il faut les nourrir, etc. Alors quand un pasteur dans une église en parle, ça énerve. Nous avons des valeurs que le monde n'a pas. La société subit aujourd'hui les conséquences de ses inconséquences, voire de ses crimes. Deuxième point. L'apôtre Paul dit, c'est une grande source de richesse que la piété. La deuxième chose, c'est le contentement. Être content. J'ai pris le dictionnaire Hachette juste pour regarder rapidement ce qu'il disait. Et il dit « content, dont le cœur et l'esprit sont satisfaits ». C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Hein? Le contentement, c'est quand vous savez que Dieu a pourvu à tous vos besoins. Et la conséquence, c'est une libération de tous ces désirs inutiles. Paul exprime cet état dans Philippiens 4. Il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi ? Parce que ton contentement intérieur, ta satisfaction intérieure ne vient plus de tout ce que tu possèdes, mais de tout ce que tu as en Dieu. Et là, tout d'un coup, que tu aies beaucoup ou peu, tu peux être content parce que tu n'es plus attaché à ce que tu n'as pas. Alors c'est joli à dire comme ça. Mais je me rends quand même compte que dans les églises et dans l'église, eh bien beaucoup de chrétiens vivent malheureux parce qu'ils voudraient toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils sont insatisfaits. Ils sont mécontents. Le fait de ne jamais être satisfait nous mène au péché. L'insatisfaction crée en nous des désirs et la convoitise. Dès la Genèse, attendez, ça ne pouvait pas être plus parfait que c'était. Dieu était là. Adam et Ève étaient dans le lieu le plus merveilleux qui existe. C'était paradisiaque. En plus de ça, ils étaient seuls, les deux. Rien de tout ça. C'était beau. Et là, le diable vient et va créer un besoin où il n'y en a pas. C'est ça, l'insatisfaction. Le diable crée un besoin là où il n'y en a pas. Il dit, oui, mais c'est bien, vous avez le droit de manger de tous les arbres. Mais celui-là, si tu mangeais de celui-là, tu deviendrais comme lui, comme Dieu. C'est pour ça qu'il t'a dit, tu peux manger tout, sauf pas de ça. Déjà né, la convoitise. Déjà né, l'insatisfaction. Du coup, Ève n'est plus satisfaite de son statut. Il lui faut autre chose. Il lui faut plus que ce qu'elle ne possède. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux à cause de leur incapacité d'être contents. Paul dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Frères, sœurs, soyons honnêtes, toute notre société fonctionne là-dessus. Le monde dans lequel nous vivons, la société crée des besoins qui n'existent pas forcément. Parfois ils existent, mais pas forcément pour vous pousser, pour me pousser à la consommation. On crée des besoins qui n'existent pas. Alors, jusque-là, on pourrait en sourire. Le problème, c'est que ça se gâte, et je vais vous dire où ça se gâte. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, de couples ne vivent plus heureux et heureuses parce qu'ils ont tellement de dettes, parce qu'ils se sont endettés à un niveau tel pour avoir toujours plus et mieux. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter avec vous pendant un instant. Combien de fois aurions-nous pu finalement construire une maison simple dans laquelle on aurait pu être heureux, mais parce qu'on voulait qu'elle soit grande, parce qu'on voulait ceci, cela. Vous courez du matin au soir, mari et femme, pour arriver à rembourser. Des tensions naissent dans vos couples, vos enfants ne vous voient plus. Ça sert à quoi une maison dans laquelle il n'y a plus d'âme ? Ça sert à quoi une maison dans laquelle on se dispute constamment ? Ça sert à quoi quand des huissiers vous envoient des lettres ? J'arrive parfois dans des familles qui n'ont pas grand-chose, mais alors c'est le dernier téléviseur, c'est le dernier téléphone, c'est le dernier tout ce que tu veux. Ils ne sont pas heureux, ils sont sous pression. Pire, écoutez-moi et suivez-moi. Je crois que l'argent des chrétiens se trouve dans une économie qui est celle du monde au lieu de se trouver dans celle de Dieu. Parce que les croyants ne sont jamais satisfaits. Tout ce qu'ils ont, tout ce que Dieu leur a donné, toute la bénédiction, ils l'utilisent toujours, le dépensent toujours pour des choses qui disparaîtront, vous n'emporterez rien. Et pour le royaume de Dieu, il n'y a que les restes. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a que les restes. Parce que notre insatisfaction nous a piégés et amenés finalement à tout investir dans une économie qui n'est pas celle de Dieu, mais celle de l'ennemi de nos âmes. Réfléchissez, combien de bien nous aurions pu faire, je m'inclus, combien de bien nous aurions pu faire si nous avions accepté d'être contents avec ce que nous avons. Simplement contents. Quand j'ai beaucoup, je loue Dieu. Quand j'ai moins, je loue Dieu. Parce que finalement, la satisfaction se trouve dans ce qu'il est, lui, pour moi. C'est lui ma joie, c'est lui ma force. Je ne voudrais pas que vous soyez privés de tout ce que vous pourriez faire. Tout simplement parce que, comme chez Ève, à nouveau, nous nous faisons piéger. Deuxième chose que je voudrais dire, et je terminerai, le temps est passé. Mais si on retenait déjà rien que ça, vous savez, l'insatisfaction engendre la rivalité. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. On est d'accord ensemble ? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Est-ce que nous l'acceptons ? Très souvent, parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, nous envions l'autre. Et là, encore une fois, nous nous faisons piéger. Soyons heureux de ce que nous sommes. Mesdames, s'il vous a fait femme, soyez heureuses. Est-ce que vous avez déjà pu dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait de moi une femme? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus content d'être ce qu'on est. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir des hommes et les hommes veulent devenir des femmes. Mais quand tous les hommes seront des femmes et toutes les femmes des hommes, on sera de nouveau au point zéro. Heureux de ce que je suis. Satisfait de ce que Dieu a fait. Regardez dans sa souveraineté. Dieu choisit de donner un talent à l'un, deux à l'autre et cinq à un troisième. C'est son droit. Pourquoi est-ce que celui qui a que deux talents devrait commencer à être insatisfait, rentrer en rivalité avec celui qui en a cinq? Pourquoi? Commence à louer Dieu, à dire, Seigneur, je te remercie pour les deux talents que tu m'as donnés et je vais les multiplier, je vais en faire quatre. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse comme je suis. Arrête d'être insatisfait. Les petits, ils veulent être grands, ils achètent des grandes chaussures pour être plus grands. Les grands, ils veulent être petits, alors ils achètent des petites chaussures plates pour être plus petits. Les blondes veulent être brunes, les brunes veulent être blondes. Nous nous usons, nous nous fatiguons et nous passons du temps à des choses inutiles. Tout ce que nous pourrions consacrer au Seigneur, eh bien, part dans des choses inutiles. De surcroît, vous savez, la rivalité, eh bien, elle peut être destructrice. Dans Jacques 3,16, il dit, là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En d'autres mots, il n'y a pas de paix réelle tant que nous ne sommes pas contents avec ce que Dieu a fait de nous. Nous jalousons ceux qui ont des dons différents des nôtres. Nous avons peur de leur influence, nous avons peur qu'ils nous fassent de l'ombre. Et soudain, nous commençons à fonctionner non plus en fonction de ce que Dieu veut, mais en rapport avec ce que l'autre est. Soudain, ça commence à nous ronger. La Bible dit que l'orgueil est comme la carie des os. C'est comme un cancer dans les os. Ça te ronge intérieurement. Secrètement, tu es en compétition, tu ne vas pas le dire. Tiens, Dieu t'a donné une belle voix. Et cela fait des mois que tu entends dire, ah, mais tu as une belle voix. Soudain arrive quelqu'un d'autre qui a ou une aussi belle voix ou une voix encore plus belle. Et puis là, tu commences à être inquiet. Au lieu de te dire, oh Seigneur, merci pour la belle voix qu'il ou qu'elle a. Merci parce que grâce à lui et à elle, eh bien, le peuple de Dieu est encore plus réjoui en ta présence. Rivalité, peur, jalousie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas contents de ce que Dieu nous donne et parce que nous ne réalisons pas quand notre temps est passé. Moi, je me dis, au bout de 40 ans, le pianiste devrait dire, j'ai fait mon temps, j'étais heureux de servir le Seigneur le temps qu'il fallait, maintenant, place aux autres. Et qu'un autre, un meilleur que moi, vienne et continue. C'est comme ça que ça devrait marcher. Les uns devraient encourager les autres. Chacun devrait être content de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce que Dieu a voulu de lui. Mon frère, ma sœur, Paul dira, ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Jéroboam, et je termine par cet exemple. Jéroboam avait reçu de la part de Dieu l'autorité sur 10 tribus d'Israël. Et Dieu lui avait dit, pour toi et tes descendants, je te le donne. Vous lirez ça, vous pourrez le lire à la maison, 1 roi 12, je ne vais pas le lire maintenant. Mais il lui dira, je laisse 2 tribus à Roboam, parce que j'avais promis à David qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône. Cependant, il n'avait aucune inquiétude à avoir. Dieu l'avait placé sur 10 tribus. Que s'est-il passé? Le peuple allait régulièrement adorer à Jérusalem, là où se trouvait l'autre roi. Jéroboam va commencer à avoir peur, va commencer à sentir une rivalité. Et il dira, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Il avait oublié que celui qu'il avait établi, c'était Dieu. Et que fit-il? Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il leur a fait un veau d'or. Il leur a fait un faux dieu pour qu'ils ne montent plus à Jérusalem. Lorsqu'il y a de la rivalité, tu sors de la volonté de Dieu. Et tu commences à faire des choses non plus en fonction de ce que Dieu te demande, mais en fonction de ce que les autres font. Tu vas essayer de faire mieux que l'autre, non pas parce que tu aimes plus le Seigneur, mais parce que tu es jaloux de l'autre. Cela vient d'où? Cela vient simplement du fait que tu ne sais pas être content avec ce que Dieu a fait de toi. La piété et le contentement, c'est une grande source de gain. Vous ne pouvez pas savoir ce que le contentement vous fait économiser. Vous ne pouvez pas savoir ce que le contentement vous évite. Des situations pénibles et difficiles dans lesquelles peut-être certains pleurent en se disant « si j'avais su ». J'aurais pas investi autant. Si j'avais su, je n'aurais pas fait les dettes que j'ai fait. Si j'avais su, je me serais pas laissé prendre autant que je me suis laissé prendre. apprenons à vivre pieux et content. N'est pas l'apparence de la piété, mais est ce qui en fait la force. Fermons nos yeux un instant ensemble.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Il est 4h42, la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement, mardi 17 juin. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un beau réveil, une excellente journée. On poursuit notre programme avec Citizen Way, Say So.
Trouble, and because you delivered me out of darkness into light, into freedom, and because you are so good, you're so good to me. Let the redeemed of the Lord say so. Lift up your voice to a living hope, because your love endures forever. I'm redeemed, I'm redeemed. Jesus saved. Thank you, wanna testify. You turned my sorrow into shouts of joy. Oh, Lord, keep working in my life. Let others see what you do.
Your voice to a living hope, because your love endures forever. I'm redeemed.
Pensez que tout ne sert à rien, ne plus pouvoir cacher ton chagrin, alors qu'au fond ça fait du bien. Je me rappelle de tous nous deux, quand je ne pensais à plus rien, seulement à te plaire, être amoureux, alors qu'au fond c'était en vain. Alors tu penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que tu penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors tu penses et tu dis ça. Tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et tu penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. partie. T'as beau embrasser d'autres femmes, t'auras plus jamais cette même flamme qui brûle en toi, en nous, en vous. Quand tu deviens fou dès qu'elle t'appelle mon chou, on se dit toujours que c'est pour la vie. À toujours faire le mec surpris. Tu dis toujours qu'elle reviendra, que ses affaires seront toujours chez toi. Alors t'y penses, tu rigoles, tu ressasses et tu pleures. Alors tu penses que tu penses pas, mais c'est quoi cette douleur? Alors t'y penses, et tu dis ça, que tu pourras jamais, jamais oublier cette histoire-là. Et tu penses aussi, ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi, mon absence. Ah, tu penses aussi. Alors tu penses et tu l'oublies. T'oublies ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle serait. Au beau moment passé, aux instants de regret. Alors t'y penses et tu grandis. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence, t'y penses aussi. Et t'y penses aussi. Ton absence, j'y pense aussi. Et j'y pense aussi. Mon absence, wow. T'y penses aussi, wow. J'y pense aussi, wow. T'y penses aussi.
Brian et la chanson T'y penses sur Phare FM. Il est pratiquement 5h10 et notre programme se poursuit. Les langages de l'amour, votre prochain rendez-vous. Avant cela, Benson Boone, Sorry, Here I Am for Someone Else. Pardon, je suis là pour quelqu'un d'autre. Eh bien non, moi je suis bien là pour vous et j'espère que vous allez bien. Encore bon réveil, excellente journée.
I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. You walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
What happened next, buddy?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it.
But I need to go.
Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
langage de l'amour.
Si je devais donner la seule clé capable de vous ouvrir la porte à un mariage heureux, je dirais une attitude réciproque de service. Quand le mari et la femme se demandent l'un l'autre « Comment puis-je te servir ?» alors, à coup sûr, les besoins seront comblés. Maintenant, cela doit être réciproque. Un mariage heureux est impossible avec une épouse soumise et servile, avec un mari tyrannique et exigeant. L'épanouissement conjugal ne viendra pas plus d'une femme dominatrice et d'un mari passif. Le mari doit apprendre à servir sa femme comme le Christ a servi l'Église. La femme doit servir son mari comme le Seigneur. Le service réciproque apporte une joie mutuelle. Les joueurs de tennis passent des heures chaque semaine à améliorer leur service. Pourquoi ne pas faire de même pour votre mariage ?
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
When I had no chance, you gave me hope. Despite my circumstance, you gave me peace. When I was on my knees, desperately searching, searching for an answer to heal my broken heart and take away all my scars. 'Cause I know
Stevenson Holland sur Phare FM. La nuit autrement se termine. Bonjour chez vous va vous rejoindre, ainsi que Innocent dans Cocorico à partir de 5h30. Pour ma part, je vous retrouve cette nuit à minuit. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon mardi avec Phare FM. Je vous laisse avec Julien Lib, le jeu. À très bientôt.
J'ai juste besoin de tes yeux, de leur éclat dans la nuit. Tu sais, je finirai peut-être pas vieux, mais ensemble on fera du bruit. On criera tous les deux.
à l'ombre de la pluie. Mais avant faut que je poste ma story. Ce soir avant minuit, je laisse filer la folie. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau.
Tu vois si je chante la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes. Le temps de rallumer la flamme. Si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux sèchent la larme. Quitte à le payer de mon âme.
Si je joue le jeu.
Moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors.
L'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Oh. Derrière mon sourire, y'a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin.
Pour toi, je sillonne le monde
à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt.
Pour toi je sillonne le monde
à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau.
Tu vois si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux baissent les armes.